Bonjour à toi, enfant du futur immédiat, toi qui regardes ce truc d'ancêtre tellement minimaliste qu'on dirait une installation d'art rétro-moderne abstraite. Après un morpion auquel le film Wargame fit hommage 20 ans plus tard, le tout premier jeu vidéo à graphisme fut sur écran vectoriel, Space Wars. On est en 1962, il faut un PDP-1, un immense et coûteux ordinateur plus un terminal vectoriel non inclus dans le package pour y jouer, donc inutile de te dire qu'il était un objet de curiosité pour une université richement dotée. 10 ans plus tard, Nolan Bushnell l'adapta avec un copain en première borne d'arcade vidéo sous le nom de Computer Space, un exploit réussi grâce au progrès de la miniaturisation et contre-intuitivement en se passant justement de l'ordinateur dans le titre. La borne est passée sur des logiques discrètes et pas encore sur un microprocesseur programmable. Non, attends, je te la refais parce que tu l'as peut-être pas comprise. Il n'y a pas de programme dedans. Pas une seule ligne de code. Rien, même pas en langage assembleur. Tout le jeu est conçu par le circuit électronique qui est incapable de faire tourner une autre application. Tout est en dur là-dedans, là, cette borne d'arcade, la jaune là, qui me regarde. Et pourtant, cela ressemble à de l'informatique car on a des boutons contrôleurs, il y a de la logique, il y a des compteurs, une gestion d'état et d'erreurs. On a un écran qui affiche des chiffres, un décor, des sprites. Cette borne a de l'électronique mais n'a rien d'informatique. Tu débuguais le jeu au multimètre et au fer à souder, à l'oscilloscope si t'étais riche bien sûr. Et pour cause, on est en 1971. Intel ne sortira son 4004, le premier microprocesseur intégré, que quelques mois plus tard. Une équipe concurrente à Nolan Bushnell s'est même essayée au même moment à faire une borne d'arcade vidéo avec un ordinateur derrière. Les coûts étaient totalement rédhibitoires. Leur engin coûtait environ 30 fois plus cher que l'ingénieuse conception de Nolan Bushnell. Même pas envisageable de l'installer dans une galerie marchande et encore moins dans un bar. En 1972, désormais sous le nom d'Atari, l'équipe de Bushnell sort une deuxième borne d'arcade, Pong, l'adaptation d'un autre jeu sorti 3 mois plus tôt sur la première console de jeu officielle, la Magnavox Odyssey. Et d'ailleurs, la toute première console de jeu n'est pas un ordinateur. Ce système, conçu par Ralph Baer, était à base de logique discrète. Le jeu est programmé par la conception du circuit électrique qui ne comportait que 40 diodes et 40 transistors, et c'est tout. Et après, juste des connecteurs. Les 23 cartouches de jeu ne faisaient qu'activer ou non certains circuits, et de là, créer le jeu. Cette première génération de jeux vidéo était assez rustre. Un affichage en noir et blanc au gros carré, pas de son, 2 manettes de jeu avec un potard rotatif, et sur la télé, 2 rectangles blancs, 1 par joueur, 1 carré qui faisait office de balle, 1 trait en guise de mur, et c'était tout. Oui, même l'affichage du score n'arriva que plus tard. Le tout premier jeu vidéo familial était un tennis dont les parties pouvaient être aussi monotones qu'une après-midi confinée devant un match de Roland-Garros avec le son coupé. C'est dire. Mais, enfant du futur immédiat, je ne sais pas si tu te rends compte de ce que ces boîtes annonçaient. Ces consoles de jeux de toute première génération amenèrent le rêve que les familles puissent être maîtres de leur téléviseur familial avec peut-être plus de joie que le magnétoscope. Et elles furent des succès. En 4 ans, la Odyssey se vendit à 350 000 exemplaires. Elle eut assez vite une multitude de concurrents, puis elle céda sa place aux consoles avec un vrai CPU, la deuxième génération. Les premières concurrentes de la Odyssey étaient elles aussi des consoles à circuit logique programmées par la gravure et leurs composants. Il y eut ensuite une flopée de marques qui se sont jointes à la partie et qui eurent la facilité du jeu car les fondeurs de puces électroniques avaient déjà mâché un petit peu le travail. Oui, les consoles de jeux de Philips Grunding et Oxitel dont nous allons parler aujourd'hui, ben c'était des assembleurs. À la différence des assembleurs modernes de PC génériques, eux, ils avaient leur propre carte mère et des équipes pour assembler les composants, les souder et les mettre dans de belles boîtes cartonnées qui allaient faire un carton en ce Noël, c'est sûr. Ou presque. En gros, ces années 70, c'était l'époque des fabricants régionaux de matériel informatique à la fois pionniers et à la fois réinventant la même chose qu'à côté. Un peu comme les fabricants d'automobiles entre 1880 et la Première Guerre mondiale, ils s'adressaient à des passionnés souvent fortunés. On achetait le châssis, le moteur, les commandes, les roues, mais la carrosserie et l'aménagement intérieur étaient en sus, donc souvent l'heureux acquéreur soit devait tenter de le faire lui-même, soit en faisant appel à une autre société spécialisée. Ces boîtes régionales n'ont pas démérité. Elles ont toutes tenté leur chance à un moment où le marché venait seulement de se créer. Ce qui fait que certaines ont perduré, comme Apple ou Sega, ben, ce sont les fonds, la capacité de distribution et le segment commercial qui leur permis de trouver un public pour tenir jusqu'à aujourd'hui. Enfant du futur immédiat, dans cette release de CPU, on ne va pas faire du chauvinisme en parlant d'un constructeur régional, Mais on va faire un hommage à tous ces petits fabricants qui ont tenté leur chance au tout début de l'informatique familiale durant les années 70 et qui, tels des étoiles filantes, se sont consumés et dont les collectionneurs recherchent avidement la moindre trace. Merci Ralph Baer d'avoir inventé le Pong pour la console Odyssey et pour toutes ses parties endiablées.